On continue une petite étude qu'on a commencée, qui ne durera peut-être pas 40 semaines comme la dernière fois, là, mais c'est quand même, on a un sujet très, pour moi, je trouve ça édifiant, je trouve ça encourageant d'en parler, mais c'est pas un sujet qu'on aime entendre. Parce que c'est un sujet qui plane sur l'ensemble de l'humanité. On a vu qu'on parle de la mort, puis on a parlé aussi de la mort spirituelle dans laquelle tous les humains étant enfermés, en venant au monde, par défaut, t'es mort spirituellement, déconnecté d'avec Dieu. Puis en plus de ça, on est destiné à mourir physiquement. Puis à cause de cela, mais on est tous face à un choix de qu'est-ce qu'on va faire dans notre vie, à cause que nous sommes morts, mais si on ne le sait pas, on se laisse aller et on fait tout ce qui est devant nos yeux. Mais si on le sait qu'on est à mort spirituellement et qu'il y a une possibilité de s'en sortir avec le Seigneur, on s'accroche et on persévère avec le Seigneur. Mais le Seigneur veut qu'on ait de la sagesse dans ce qu'on a manié et qu'on va vivre notre vie. Le sujet qu'on va regarder à propos justement dans le contexte de la mort puis l'analyse de tout ce qui tourne autour de cela, Dieu veut qu'on calcule la valeur de nos jours qui nous sont prêtés. La vie qu'on a, on l'a mentionné, est très courte. On est appelé à la perdre même. On est tous appelés à retourner à la poussière, comme Dieu nous le dit dans sa parole. Puis là, il nous dit, dans sa parole, de calculer la valeur de nos jours qui nous sont prêtés. Pensez-vous à la mort? C'est une affaire que vous y pensez. Qu'est-ce qui va arriver? Comment est-ce qu'on va vivre ça? Comment est-ce qu'on va traverser l'autre bord? Est-ce que c'est quelque chose qui nous fait peur? Est-ce que c'est quelque chose qui nous dérange même? Il y en a qui ils pensent à cela, puis ils prennent des pilules à cause de cela, pour pas y penser justement, parce qu'ils ont tellement peur, ils font des angoisses. Ou on est insouciant, puis on s'en fout, puis on mourra, puis ça finit là, puis on pense que ça va arrêter là. Est-ce que la pensée de la mort vous fait réfléchir? Est-ce que ça vous fait méditer? Qu'est-ce qui va se passer? Puis il est important qu'on y pense. Parce que s'il pense, tu vas t'arrêter puis savoir, ouais, mais c'est quelque chose là au bord, comme c'est dit dans la parole. Puis ouais, mais s'il y a quelque chose qui, comme s'il y a un Dieu qui va nous juger après, mais là, si on y pense, ça va nous aider à prendre de bonnes décisions pendant qu'on marche sur cette vie, dans cette vie. Pensez-vous à la mort? Penser à la mort devrait nous amener à des réflexions profondes sur la manière que nous vivons notre vie chaque jour. Penser à la mort, ça devrait nous amener à faire un recul, à faire attention, à analyser ce qui se passe, puis de poser chaque geste de notre vie, de le poser de la bonne façon, parce que si on pense à la mort puis qu'il y aura peut-être des conséquences après la mort, ça devrait nous amener à réfléchir puis de prendre des décisions qui vont nous amener à prendre les meilleures décisions. La parole de Dieu nous enseigne à compter chaque journée prêtée, les considérer précieuses puis de les vivre avec sagesse. Dans le psaume 90, le verset 12, ça nous dit: enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Enseigne-nous à bien compter nos jours, ça veut dire, on va s'apercevoir, si on les calcule, qu'il n'y en a pas si tant que ça des journées à vivre dans toute une vie. Moi, mettons, tu prends la moyenne d'une personne qui vit autour de 75 ans, mais dans 75 ans, il y a juste 900 mois. C'est pas gros, 900 mois. Les mois passent un par derrière l'autre comme ça. On se réveille de bord, on est toujours en train de changer notre calendrier. Les mois passent. Dans 900 mois, il y a 27 375 journées. Ça a de l'air gros, mais ça passe tellement vite. Pour moins que 58 ans, il me restera, si je me base sur 75 ans, il me restera 17 ans à vivre. Ça veut dire 204 mois. Il me resterait 204 mois sur 900. C'est pas gros. Puis je m'en aperçois comment est-ce que les mois passent vite, surtout quand t'es chauffeur d'autobus, puis tu regardes ton horaire scolaire, puis là, tu commences l'année en septembre, première nouvelle que tu sais, t'es déjà rendu en octobre. Première nouvelle que tu sais, t'es déjà rendu en novembre. On regarde les journées de congé qu'on a, puis ça passe vite, on est toujours arrivé, on est toujours en congé. Les mois passent sans arrêt. Puis ça, le monde qu'on se... Mandant ma mère, ça a trouvé que ça a été long. Quel âge t'es rendu, maman? 79? Non, mais sans dire que t'en as 79, ça a-tu passé vite? Ça passe très vite. Surtout quand t'es rendu à la fin, t'as trouvé que ça passait vite. Quand tu commences tu ta vie, tu dis, wow, j'ai le temps en masse. Quand t'es adolescent, tu trouves ça long pour arriver à 18 ans. Quand t'as 18 ans, t'es déjà rendu à 58, puis ça passait de même. Où sont mes journées? C'est pour ça que la Bible nous dit d'apprendre à bien compter nos jours. Ils sont importants. Chaque journée que nous vivons, c'est prêté par Dieu. C'est un cadeau que Dieu t'a fait. Il t'a donné une journée de plus. Puis on a tellement peu de journées à vivre, on faut les compter. Puis dans quel but qu'on devrait les compter? Dans le but de grandir en sagesse. Ça nous dit, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Vu que t'es compte, puis tu t'aperçois que ça passe vite, mais là tu vas dire, wow, faudra peut-être que j'apprenne à bien les vivre, mes journées. À pas être ouvert à tout ce qui est pas bon. Comment est-ce qu'il y en a de gens qui ont pris des décisions dans leur vie, puis à cause qu'on prend une décision dans leur vie, ils ont fait un geste grave, qu'ils ont mal calculé, puis sont retrouvés en prison pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ils se sont privés de leur vie, privés de leur liberté, privés de leur famille, privés de tout pendant longtemps, juste pour un simple geste. Puis ça, sans compter ceux qui ont fait le geste de dire, mais oh, me tabisque à gaz, puis ils s'en vont, puis ils clenchent ça, puis ils pognent un accident, puis ils se tuent. Ils n'ont pas vécu avec sagesse, puis faire attention de vivre ça d'une manière comme si c'est précieux, puis qu'on peut la perdre à tout moment. Ça passe tellement vite qu'il peut arriver une affaire, puis on en est privé d'un coup sec. Dieu veut qu'on ait de la sagesse dans notre vie, qui est courte. On a une petite vie, demandons à Dieu sa sagesse pour la vivre de la bonne façon, puis dans la vivre de façon, moi en passant, je vous suggère de la vivre pour Dieu, parce que c'est là qu'il y a le bonheur, la joie, on va le voir un petit peu plus tard. Quand il parle de sagesse, là, le mot sagesse qu'il y a là dans ce verset-là, afin qu'on applique notre cœur à la sagesse. La sagesse veut dire prudence, de l'art. La vivre d'une façon que ça soit comme une œuvre d'art, notre vie soit comme de l'art. Comme on serait des artistes qui prennent le temps de vivre leur vie du matin jusqu'au soir, puis de la vivre d'une manière parfaite, une belle vie, une bonne vie. Ça a aussi le sens avec adresse. Ou avec sagesse en administration, prendre des bonnes décisions qui vont aider à améliorer notre sort financièrement, voyez-vous. Puis il y a d'autres places, la sagesse, sagacité, ça j'ai oublié de checker dans le dictionnaire, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça a encore rapport avec la sagesse. Vivre avec sagesse, c'est aussi le sens de prudence. Faire attention à ta vie qui est précieuse. Tu sais que tu vas mourir, puis tu sais que tu en as peu de jours, puis ça passe très vite. Tu vas vivre avec prudence, puis aussi dans l'idée de la sagesse morale et religieuse, dans le sens avec sagesse, la vivre de façon sage, intelligente, de la bonne façon devant Dieu. Voyez-vous? Dans le psaume 90, dans lequel ce verset-là est écrit, on va lire à partir du verset 9. « Tous nos jours disparaissent par ton courroux. » Quand Dieu il a dit « C'en est assez », paf, tu disparais, ton heure est arrivée, tous tes jours, ça disparaît. C'est Dieu qui décide du jour où qu'on va partir. C'est pour ça qu'il est important de vivre avec sagesse, puis d'être prête à rencontrer notre Créateur. Le jour de notre mort, c'est prête, pas prête, tu pars, puis tu n'emmènes rien avec toi. Il dit, tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. C'est juste du bruit. Notre vie, là, essayez de vous rappeler tout ce que vous avez vécu depuis que vous êtes au monde. Impossible. Tout ce que vous avez un vague souvenir de quelques épisodes. Ça a passé comme un bruit. Ping! Et voilà, vous êtes rendu à l'âge que vous êtes rendu, puis peut-être que c'est votre dernière journée que vous allez partir. Pif, on tombe. Notre heure est arrivée. on est mort. Notre vie a été juste un petit bruit pendant un petit temps. On a fait un petit peu de bruit sur cette planète, puis on disparaît. Les jours de nos années s'élèvent à 70, et pour les plus robustes, à 80. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. On a beau être fier puis de se vanter de tous nos exploits qu'on a faits, puis c'est tellement minime, puis c'est tellement rien, tout ce qu'on a pu faire comme exploit jusqu'à aujourd'hui. Puis Dieu ne nous avait pas demandé de faire des exploits, mais l'homme, dans son orgueil, a comme un besoin de se valoriser, de se sentir important, de se sentir le premier, le meilleur, le nombril du monde. Puis là, il s'élève dans ses pensées. Tu as juste une petite vie. Peu importe ce que tu as vécu, toute ta gloire que tu as essayé de t'accumuler pendant cette petite vie-là, c'est éphémère, puis tu n'emmèneras rien avec toi. Ce n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Nos journées glorieuses, surtout ceux qui ont le trip de se vanter de leurs péchés, puis de leurs exploits, puis tout comment est-ce qu'ils ont fait, ils ont fraudé ici, ou ils ont eu tant de femmes à leurs actifs, puis etc. Toutes les choses que le monde peut se vanter dans leurs péchés, c'est toute de la gloire passagère, éphémère, qui va disparaître. Ça passe vite. Qu'est-ce qui va te rester de ta vie quand tu vas être fini? Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux? Il parle là, à Dieu. Là. Qui prend garde dans sa course sans frein dans le péché? Qui prend garde à la colère de Dieu? Comment est-ce que Dieu il le dit qu'il va revenir et va juger les actions secrètes des hommes? Les gens, c'est comme s'ils pensent pas, puis ils vivent comme s'il n'y aura pas de conséquences. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due? Les gens devraient réaliser, tout le monde devrait réaliser comment est-ce que notre vie est courte, à pause vite, puis qu'on devra craindre Dieu, puis marcher avec Dieu. C'est là que ça dit, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ça, c'est une exhortation qui sera pour nous, qui connaît Dieu, puis qu'on pourra prier Dieu, puis dire, Seigneur, donne-nous de réaliser comment est-ce que nos jours sont importants, comment que ça passe vite, puis qu'il est important que je marche avec sagesse pendant cette vie terrestre. Jacques nous dit que notre vie est aussi brève qu'une brume du matin, dans Jacques 4,14. Et dites-vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps, puis qu'ensuite elle disparaît. Oui, on voudrait laisser notre marque dans ce monde. On voudrait que notre nom soit écrit dans le record Guinness, ou qu'on soit dans le nom des célébrités, ou dans le temple de la renommée. On voudrait que notre nom soit à quelque part, sur un nom d'une rue ou sur le nom d'une ville. Mais tout ça, c'est rien. Il dit, on est juste comme une vapeur qui paraît, pouf, est disparue. Notre vie entière, puis on ne sait pas ce qui va nous arriver demain. C'est ce qu'il nous dit dans Jacques 4,14. On ne sait rien, on vit notre vie, puis on la vit comme qu'on pense, puis paf, notre vie est finie, puis on se retrouve l'autre bord. Disparaître si rapidement, et qu'après notre mort, Dieu amènera en jugement ce que nous aurons fait. C'est ça que le monde sait pas. C'est ça qu'on sait, puis qu'on doit lui dire. Il y a une résurrection des morts, puis un jugement après. Puis il est important d'avoir fait la paix avec Dieu, parce que l'ensemble de l'humanité vit sans Dieu. L'ensemble de l'humanité sont séparés d'avec Dieu, puis tous les gens savent pas ce qu'ils vivent, puis ils vivent leur vie, puis ils courent après toutes sortes d'affaires, pensant qu'ils ont un plaisir là-dedans. Oui, ils peuvent en avoir des plaisirs, des satisfactions, mais c'est pas durable. Tu gagnes à la loterie, tu es content là, mais le lendemain que tu as tout dépensé, tu n'as plus rien. Il n'y a rien de durable dans tout ce qu'il y a dans cette vie, dans ce monde. Ecclésiaste 12, le verset 13 et 14, ça nous dit, écoutons la fin du discours, la fin du livre de l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste est un homme sage, c'était Salomon, l'homme qui avait la plus grande sagesse sur la terre, une sagesse donnée par Dieu, puis il a écrit ses idées sur la vie, puis tout le kit, puis lui, il a tout essayé dans le monde. Il a dit, j'ai poussé mon cœur à sonder les choses, puis aller au fond des choses. Il a analysé, lui, ce que c'est d'être propriétaire de beaucoup d'affaires, puis d'aller jusqu'au bout de tes rêves, puis au bout de tes buts, puis au bout de tes objectifs, puis au bout de tes passions, puis il a tout essayé. Le pire, c'est qu'il a tout perdu après, parce qu'il s'est éloigné du Seigneur. Mais quand il était dans la communion avec Dieu, lui a écrit dans son livre, « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Jésus a dit à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui êtes mes amis. Tout ce que vous aurez dit dans votre chambre à coucher va être prêché sur les toits. » On pense qu'il y a des moments où ils sont cachés dans notre vie, il n'y a pas de moment. Il n'y a rien de secret qui ne doive être découvert. Ouch! J'ai pas entendu un amen là-dessus. Au moins, ouch! Parce que c'est quelque chose quand tu sais que Dieu voit tout. Ce que nous sommes, ce que nous pensons, ce que nous ressentons, puis il garde tout en mémoire, puis il dit à la fin, crains Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme, ça comprend les femmes aussi, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Oui, en Jésus, on a le pardon de nos péchés, puis oui, en Jésus, on ne va pas en jugement pour nos péchés, ils sont pardonnés. Mais quand même, on va devant le tribunal de Christ pour recevoir selon le bien ou le mal qu'on aura fait étant dans son corps. Je sais que ça va être gênant. Il y a des événements de notre vie qui vont être gênants. C'est pour ça qu'il faut s'empresser à demander pardon, aller chercher le pardon du Seigneur. Notre vie est courte. On a une petite vie qui passe très rapidement, puis il est important de faire la paix avec Dieu, puis de mourir en communion avec Dieu. Pardonner, ça veut dire mourir, pardonner, parce que sinon, tout va être jugé, puis c'est la condamnation pour chaque péché qu'on a fait, c'est la condamnation éternelle, puis il n'y a pas un qui peut y échapper. Tout le monde va ressusciter, on va le voir dans une étude plus tard. La seule chose qui a de la valeur pour notre vie éphémère, parce que vu qu'on est une brume, on se dit, oui, j'ai juste une petite vie, je vais en vivre comme que je veux. Il y a beaucoup de monde qui pense comme ça. Je vais en profiter. On court après tout ce qui est ouvert devant nous. Aujourd'hui, il n'y a rien de plus ouvert comme que ça n'a jamais été. Là. Tout est permis, là, quasiment. Il n'y a pas de... À moins que tu violes quelqu'un, là, c'est pas permis, mais en général, tu peux avoir le nombre de femmes que tu veux dans ton lit, c'est pas grave. T'as même pas besoin d'être marié. T'as pas le droit de te marier à plusieurs femmes ici au Québec, mais ça t'empêche pas d'en avoir 10 dans ton lit. L'idée, c'est qu'il y a rien de défendu. Tout est open. Voler, c'est sûr que là, tu peux pas le faire, mais ça me surprendrait pas qu'un jour, ils le permettent. Ils sont rendus qu'ils vont légaliser la drogue. Quand tu penses à ça, la drogue qui détruit les cerveaux, qui détruit le monde captif, qui amène les gens à des drogues plus fortes, ça rend esclave, puis tout ça, puis essaye de trouver des bienfaits par la drogue, oui, mais les bienfaits sont pas contrôlés. Si tu laisses la personne en prendre comme qu'elle veut, ça va amener un fléau, là, ça va détruire des cerveaux humains. Mais l'idée... dans tout ce qu'il y a autour, même si ça a de l'air attrayant, il n'y a pas de joie là-dedans, il n'y a pas de plaisir, il n'est que esclavage, puis il n'est que pogner un dent le lendemain quand tu te réveilles avec un mal de tête, puis que tu t'en vas encore. C'est juste ça l'idée, tu t'en vas encore. Tu as reviré une brosse la veille, tu te rappelles de rien ce que tu as fait, tu t'es battu avec du monde parce que tu étais à sa brosse, tu te réveilles le lendemain plein de bleu, tu as mal à la tête, tu t'en vas encore. Tu répètes toujours les mêmes affaires. la drogue, la boisson, les plaisirs de ce monde défendu par Dieu amènent des conséquences. Puis le diable, lui, il en profite, ça donne des accès au diable. On est lié par des démons, on est enchaîné dans des chaînes, puis notre âme est attristée. La joie n'est pas dans les plaisirs défendus. La joie n'est qu'en l'Éternel. Si tu vis bien ta relation avec Dieu, tu vas être heureux, tu vas être dans la paix, tu vas être dans la joie, tu vas aimer ta vie. Oui, elle va être courte, mais il y a d'espérance parce qu'il y a une vie après, une vie éternelle. Dans le psaume 90, que j'ai commencé à lire tantôt, je continue suite après qu'il dit « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Il continue avec l'idée, puis là, ça rentre dans ce qu'un chrétien doit vivre. « Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. » Là, c'est en train de parler à quelqu'un qui cherche à revenir en contact avec le Seigneur. Quelqu'un qui a réalisé qu'avec le Seigneur, t'as tout à gagner d'être avec le Seigneur. Puis c'est avec le Seigneur que tu vas être béni, tu vas être heureux, tu vas vivre la joie du... Tu vas être délivré, t'as l'espérance, t'as la confiance, t'as tout naît dans ta communion avec le Seigneur. Puis là, la personne, c'est comme si elle crie au Seigneur pour que le Seigneur revienne dans sa vie. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. C'est là que ça commence. Quand tu te lèves, puis tu rentres dans le contact avec le Seigneur. Tu prends un temps de prière avec le Seigneur. Ta vie est bénie. Oui, notre vie est courte, mais tu peux la vivre heureux si tu t'accroches au Seigneur. Tu tournes vers le Seigneur dès le matin, puis tu demandes au Seigneur de te faire vivre ses bontés. C'est lui qui nous accorde ses bontés. Il nous prête la vie, mais il nous fait jouer de moments heureux. C'est lui qui remplit notre cœur de sa joie. Et nous serons, lui dit, rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Ceux qui l'ont expérimenté peuvent dire et amen là-dessus. Oui, il y a des journées qu'on ne le vit pas, puis c'est pas à cause que Dieu voulait pas qu'on le vive, c'est à cause qu'on n'a pas été puisé dans sa paix, sa joie, puis ses bontés. Parce que si tu t'arrêtes à chaque matin de prendre du temps avec le Seigneur, tu peux vivre une vie courte, mais bien remplie de la présence de Dieu, une vie de joie, de bonheur, d'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Parce que dans sa prière, cette personne-là, ça semblait être comme si la personne avait abandonné le Seigneur, puis elle, pendant un moment de son abandon, pendant un moment d'éloignement du Seigneur, la personne vivait comme un désert, des sécheresses, de l'humiliation. Ça va pas bien dans sa vie parce que la personne néglige d'aller chercher le contact avec le Seigneur puis d'être bénie avec le Seigneur. Elle a une vie courte, aussi courte que si elle l'aurait vécue avec le Seigneur, mais est pas bien remplie. Sa journée est pas remplie de la joie et de la paix puis qu'on va chercher dans le Seigneur. Et puis là, il leur demande, réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. On voit que la personne qui est là, qui crie à Dieu, voulait et aspirait à voir la gloire de Dieu dans sa vie, à avoir un retour de la présence de Dieu dans sa vie, puis ça l'amènerait un impact où? Dans ses enfants. Si on veut que nos enfants soient bénis de la présence du Seigneur, faut commencer par l'être nous-mêmes. Faut commencer par nous autres mêmes entretenir notre communion avec le Seigneur, la joie du Seigneur, l'allégresse, aller chercher ses bontés, crier à Dieu pour les obtenir, puis de vouloir voir sa gloire. On veut voir la gloire de Dieu. Qui veut pas voir la gloire de Dieu? On veut voir la gloire de Dieu. On aime ça voir des exaucements de prière. On aime ça voir des miracles, des guérisons, des délivrances, des gens qui sont bénis, qui reçoivent des bénédictions, comme de nouveaux emplois, etc. C'est des bénédictions, on aime ça, voir ça, puis on se réjouit avec nos frères et sœurs quand ils reçoivent des bénédictions. On est bénis, mais si on le vit, nos enfants vont en vivre une suite. une conséquence. Ça, c'est une promesse de Dieu. Prenez-les comme une promesse. Si je m'accroche au Seigneur, puis ma vie est remplie de la joie, puis de la paix, puis de la gloire, puis des bontés de Dieu dans ma vie, mais ça va avoir une répercussion sur nos enfants. Ça va les attirer à venir à Jésus. Mais si on est toujours en train de se plaindre, en train de critiquer, puis on ne prie pas, puis on ne cherche pas la face de Dieu, puis on ne cherche pas la joie du Seigneur, puis on est toujours en train de critiquer, puis chialer, comment ça va bénir nos enfants? Comment Dieu va bénir nos enfants si on n'est même pas nous-mêmes avec Dieu, puis on ne la vit pas, cette relation-là? Il dit que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Amen. On veut la grâce de Dieu, on veut les bénédictions de Dieu. Puis là, il lance sa prière, il dit, affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. C'est ce qu'on a de besoin. Puis quand une personne marche comme ça, mais sa vie éphémère, elle va être courte, mais elle va être d'une vie bénie par Dieu. C'est ça qu'on veut. Amen. C'est ce que je veux, puis je l'espère pour chacun de vous. Pour pouvoir profiter pleinement d'une vie remplie avec le Seigneur, cela coûte quelque chose. Cela coûte quelque chose. Dans Matthieu 16, les versets 24 à 26. C'est Jésus qui l'a dit. Tu veux être béni par le Seigneur. Tu veux même finir un jour de vivre éternellement avec le Seigneur. Ça va être extraordinaire d'avoir la vie éternelle, d'être avec lui et de profiter de jours bien remplis de la présence de Dieu, mais pour l'éternité. L'autre bord, on n'aura pas de moment déconnecté avec le Seigneur. L'autre bord, c'est plénitude, joie, remplie du Saint-Esprit, remplie de sa paix, de son amour, la joie de vivre tous les jours pour l'éternité. Rempli de la présence du Seigneur. Ça, là, c'est dans le ciel. Un jour, c'est ça qui nous attend. Mais pour se rendre là, dans cette vie abondante, dans cette vie éternelle, dans Matthieu 16, 24 à 26, Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Voyez-vous quel est le prix à payer pour pouvoir profiter, oui, pendant notre vie éphémère, d'une vie et d'être rempli de la joie et des bontés de l'Éternel, mais d'être rempli aussi dans notre vie éternelle, d'une vie remplie de joie et de bonté et des bénédictions de l'Éternel, pour obtenir les bénédictions qui viennent de Dieu dans notre vie éphémère, commençant par ici, il y a un prêt à payer. Il faut être prêt à renoncer à nous-mêmes. Quand on est dans le monde, là, avant de connaître le Seigneur, on ne renonçait pas du tout à nous-mêmes. On profitait de tout pour nous-mêmes. Mais quand tu arrives à Jésus, tu commences à dire non à beaucoup d'affaires. Tu n'as plus de blonde, là. Tu n'as pas de blonde, là. Tu vis pour le Seigneur. Si tu n'es pas marié, tu restes comme ça, puis tu profites plus de ce que tu pourrais avoir. Amen. Puis si tu es marié, tu regardes pas non plus ailleurs, tu magasines plus, tu as fermé les boutiques pour toi, ils sont fermés. Tu magasines plus. Plus de lèche-vitrine. Ça, je parle de ce côté-là, mais tous les aspects de profiter de ce qui est croche, de ce qui est pas droit. Là. Être droit, être juste, c'est la vie du Seigneur. Marcher croche, c'est pas droit, c'est le contraire d'être croche, c'est tortueux. Oui, notre cœur, il a plein de bonnes idées tortueuses, des mauvaises idées tortueuses. Mais Dieu dit de pas suivre ces voies-là. suivre le chemin que lui a enseigné. Tu renonces à toi-même, c'est que tu décides, là, faut que j'arrête. Faut que je mette un arrêt à ma vie de péché. Faut que t'arrêtes. Faut que tu t'engages à suivre Jésus, puis à commencer à obéir à ce que Jésus dit. Puis c'est là que ta vie commence à changer. Tu donnes ta vie au Seigneur, il te pardonne de tes péchés. T'es repentant, tu veux que tu le suives, il t'accueille. Mais il y a un commencement de dégagement qui se fait, là. Tu te dégages de ce qui te tient captif, puis il t'amène à vivre une nouvelle vie avec lui. Puis c'est là que tu commences à profiter des bénédictions de l'Éternel chaque jour. Tu veux venir où ce qui est Jésus? Arrête ta vie. Qu'est-ce que tu vis là? Quand on entend des fois dans une fin d'une prêche, « Viens à lui tel que tu es. » Non, c'est pas tel que tu es. Oui, tu n'as rien à ajouter, dans le sens, tu peux pas arriver là avec 100 piastres et dire « Tu vas acheter ton salut. » Tel que tu es, à ce niveau-là, c'est pas pire. Tu n'as rien, puis il va venir. Mais faut que tu sois repentant. C'est pas tel que tu es. Faut que tu veuilles changer de vie. Si tu veux continuer à vivre ta vie de péché comme tu faisais avant, t'auras pas les bénédictions de Dieu. Enseigne-nous à vivre avec ta sagesse. La sagesse, c'est de dire, mais là, le Seigneur m'appelle à être sauvé. La sagesse va m'enseigner, je suis mieux d'écouter ce qu'il dit, puis de m'engager à le suivre. J'ai tout à gagner de suivre Jésus. Il dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Ça parle de perdre sa vie ici. D'arrêter de vivre pour nous-mêmes, pour nos passions, nos désirs de péché. Oui, tu peux, comme je l'ai dit, t'aimes ça aller à la pêche. Tu peux y aller à la pêche. C'est pas à la pêche qu'il y a le problème. Si tu fais tu vas à la pêche d'un endroit que t'as pas le droit d'aller à la pêche, ça, c'est illégal. Mais l'idée, c'est de pécher. Faut t'arrêter de pécher. Celui qui perdra sa vie à cause de moi, la trouvera. C'est là qu'on trouve la vie. On a déjà commencé à trouver la vraie vie. La vie de relation avec Dieu, puis les bénédictions de Dieu qu'on peut en avoir, sa joie, sa paix, ses moments de rafraîchissement, de restauration, les délivrances, les guérisons. Tu trouves ta vie quand tu l'abandonnes au Seigneur. Quand tu t'arrêtes de vivre pour toi, c'est là que les bénédictions commencent. Considère tes jours que tu as à vivre, il n'y en a pas gros. Mais vis les dons pour le Seigneur. Tu vas être béni. Tu vas découvrir la nouvelle vie qui est en Jésus. Puis ceux qui hésitent, ils rajoutent Jésus. Et que servira-t-il un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Parce que si tu gardes ta vie puis tu marches en rébellion, puis tu veux continuer à être en rébellion toute ta vie, t'as beau avoir eu une accumulation de biens ou de richesses ou peu importe de ce que t'as accumulé, des scores dans ci et dans ça, mais si tu perds ton âme, ça a servi à quoi? On a tout à gagner de suivre Jésus. Premièrement, pour que notre âme soit sauvée. Amen. Puis il dit, et que donnerait un homme en échange de son âme? Y a-tu de quoi que Dieu est capable d'accepter en échange pour te donner le salut? Il n'y a rien. Il y avait juste le sang de Jésus qui était assez puissant puis acceptable aux yeux de Dieu pour te donner le pardon de tes péchés puis te donner une place dans la vie éternelle. T'as beau être l'homme le plus riche de la terre, même ta richesse t'appartenait même pas. Ta richesse est à Dieu. Tout ce qui a été créé appartient à Dieu. Il y a un verset qui dit, la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. C'est Dieu qui l'a créé. Même si Dieu t'a prêté la vie puis t'a accumulé des biens puis de la richesse, tout ça, ta vie et tes biens appartenaient à Dieu. Puis t'emmènes rien quand tu pars. Tout va rester là. Puis Dieu dit, vis avec sagesse. Compte tes jours puis vis-les avec sagesse. Vie pour le Seigneur. L'enjeu de notre vie n'est pas « je dois marcher d'une manière juste, sinon je risque d'aller en prison ». C'est pas ça l'enjeu. C'est pas grave, cela, qu'est-ce qu'on dit là. Ce n'est pas un si grave enjeu. Le véritable enjeu est au niveau de ta vie éternelle. La question est « qu'est-ce que je fais de Jésus ?» Cela va déterminer où tu vas passer l'éternité. L'enjeu, c'est notre éternité, où est-ce qu'on va être après notre mort. Notre vie est courte, elle est juste une vapeur. Mais si tu n'as pas pris la bonne décision, c'est l'éternité au complet que tu risques de perdre. Puis il n'y a rien que tu vas pouvoir donner à Dieu en échange de ton âme. C'est aujourd'hui, pendant que tu es dans cette vie, il faut que tu deals là-dessus, puis que tu prennes la bonne décision d'accepter Jésus comme ton sauveur personnel, afin d'être sauvé, afin de t'assurer que tu vas avoir une place là au bord pour toi, une place qui t'attend. Dans Marc 8, 37 et 38, qui est dans le même passage que Jésus dit que donnerait un homme en échange de son âme, mais là, c'est dans Marc qu'il rajoute une phrase. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Si tu as honte de Jésus, si tu dis, oh, ben moi, Jésus, là, tu sais, je suis pas dans sa gang. Moi, Jésus, c'est un gars spécial, mais non, non. Mais si tu as honte de Jésus et de ses paroles, Jésus, faut pas oublier qu'il va revenir avec tous ses anges de sa puissance. Ça, la Bible, elle dit que ça va éclairer le ciel de sa gloire. Puis il n'y a pas juste deux, trois. Juste un ange qui est apparu, il était comme l'éclair, un éclair qui brille. Un ange, à plusieurs reprises, on a vu dans le Nouveau Testament des anges qui ont apparu puis qui éclairaient comme des éclairs. Imaginez-vous un milliard d'anges qui éclairent le ciel, des anges puissants de sa gloire. Il vient avec son armée. Puis tous les êtres ressuscités. Si tu as honte de Jésus sur la terre, tu as honte de ses paroles, tu as honte de lui, puis tu as honte de ce qu'il a dit, lui-ci va avoir honte de nous devant ses anges, puis devant son Père. C'est pour ça que c'est important de considérer nos jours. C'est-tu si important que ça de passer un trip de péché pendant, mettons que tu en profites pendant 20 ans, 25 ans. Des fois, c'est des péchés que ça dure rien qu'une seconde, 3-4 secondes. Là. C'est tellement vite, là, tu subtiles, tu voles quelque chose. Tu penses que tu t'es enrichi, tu as une petite fierté, là, juste de même, puis peut-être tu n'en as même plus d'effet. Là. Si tu fais ça par habitude, ça vaut pas le coup. Les péchés valent pas le coup. Il n'y a aucun péché qui vaut le coup de sa punition qui est attendue. Même le fait de dire, moi, j'aime pas ça, je me sens intimidé quand je parle de Jésus, j'ai honte de parler de Jésus. C'est quoi cette honte-là que tu peux vivre pendant quelques secondes comparée à la gloire éternelle, ce que Dieu t'offre? Autant, juste le temps de vivre, même si tu n'auras pas la gloire éternelle, juste le fait d'être permis de vivre pendant l'éternité, ça se compare pas les effets positifs ou plutôt négatifs des péchés de ce monde comparés à la gloire à venir qui sera réservée pour nous dans les cieux. Oui, ça coûte de quoi suivre Jésus, mais il faut être prêt à l'accepter et à le suivre. Même si ça coûte quelque chose. Dieu nous dit de bien considérer le chemin que nous prenons. Notre vie est courte, puis à chaque jour, on prend des décisions. Puis il y a des chemins qui nous rapprochent de Dieu, puis il y a des chemins qui nous éloignent de Dieu. Puis dans Proverbes 4, 26, 27, ça dit « Considère le chemin par où tu passes ». Et que toutes tes voies soient bien réglées. N'incline ni à droite, ni à gauche, et détourne ton pied du mal. Considère, il faut que tu prennes une analyse, il faut que tu fasses attention. C'est pas tout ce qu'il y a comme offre devant nous qui est de Dieu. Il y en a des offres qui nous sont offertes, c'est des tentations, c'est des pièges. C'est pour te tester. Dieu voit le test. Puis toi, t'embarques ou tu refuses. C'est toi qui décides. Refuse les tests qui sont pas de Dieu, les choses que tu sais que c'est un chemin raboteux, c'est un chemin de mal. Il dit, considère le chemin par où tu passes et que toutes tes voies soient bien réglées. Contrôle ta vie, fais attention, contrôle ta bouche, contrôle tes pensées. Parce que ça nous demande dans la parole d'avoir des pensées pures, dignes de louange, qui méritent l'approbation. Nos paroles, c'est la même affaire. Il dit, quelqu'un capable de tenir sa langue en bride, c'est un homme parfait, que Jacques dit. Mais il dit qu'il n'y a pas grand monde qui réussit. Mais faut que tu travailles là-dessus. Faut que ta vie soit bien réglée. Fais attention. Parce que tu peux prononcer des paroles, puis tu peux ouvrir des actions au diable, puis t'embarquer dans bien des problèmes. Puis ça peut même t'éloigner de Dieu. Faut que tu gardes ta relation. C'est ce qu'il y a de plus précieux. On le sait que notre bénédiction, c'est dans sa présence. L'apôtre Pierre, lui, nous encourage à vivre comme si on était des voyageurs sur la terre. Dans 1 Pierre 2,11, ça dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. » On est en voyage. On n'a pas vu quand on a pris l'avion pour s'en venir, mais on est débarqué ici, puis on vit ici. Puis là, faut pas se penser qu'on est installé puis qu'on est installé en permanence. On est juste en passage, puis dans pas long, on repart, puis le pire, c'est qu'on n'emmène rien. Puis il y a beaucoup de choses qu'on a traînées pendant notre temps de passage qui peut nous ralentir dans notre vie chrétienne. Puis il faut faire attention. Il faut bien régler notre conduite, puis il faut pas embarquer dans ce qui n'est pas de Dieu. Faut faire attention, c'est pas tout ce que les gens qu'on rencontre qui sont autour de nous, qui sont là pour nous amener plus loin dans notre vie, dans le bon chemin. Il y a des pièges là-dedans, puis il y a des tentations, puis il y a des détournements qui se font. Il n'y a pas juste des détournements d'avions, il y a des détournements de chrétiens qui s'est fait. Puis il y a même des gens qui ont été détournés, ils étaient sur le bord d'accepter Jésus, ils ont entendu quelque chose, ça les a fait peur, ça les a troublés, puis ils n'ont pas accepté Jésus. Puis il y en a d'autres qui l'ont reçu, puis ça dit qu'ils se sont éloignés après. Ils ont abandonné. N'appliquons pas notre cœur à nous enrichir ici-bas, c'est ce que ça dit aussi dans la parole. La véritable richesse sera celle qui est dans les cieux. Dans Proverbes 23, versets 4 et 5, ça nous dit, « Ne te tourmente pas pour t'enrichir. N'y applique pas ton intelligence. » Ça veut dire, réfléchis plutôt des affaires qui vont durer. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. La richesse est dans le ciel. C'est pour ça que Jésus dit, amassez-vous des trésors dans les cieux, où ce que la teigne et la rouille ne détruisent point, puis où ce que les voleurs ne percent ni ne dérobent. Tu te feras pas voler rien de ce que tu as ramassé pour ton fonds de pension éternel. Considère ta vie, elle est courte, elle est bien éphémère, vis-la avec sagesse, puis vis de façon à t'enrichir pour les choses permanentes, pas pour les choses qui vont disparaître. Amen. Amen. Le temps est court. Soyons sages. Rachetons le temps. Comprenons ce que Dieu veut. Dans Éphésiens 5, 15 à 17. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Circonspection, là, ça veut dire de, selon les circonstances, de marcher avec une inspection, d'une analyse, de regarder ce qui se passe autour de toi, puis de prendre des décisions éclairées, mais en considérant tout ce qui est autour de toi. Il faut que tu fasses attention. Il dit, prenez donc garde de vous conduire avec une analyse des circonstances. Non comme des insensés, mais comme des sages. C'est ça qu'on est en train de dire, qu'on marche dans la sagesse. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Analysez votre vie. Sondez les choses. Considérez, choisissez la vie réglée, vivez avec sagesse, rachetez le temps. Oui, il y a beaucoup de choses qui nous font perdre du temps aujourd'hui. mais rachetez le temps. Dieu nous demande des choses, il dit, comprenez quelle est la volonté de Dieu. Il faut comprendre ce que Dieu a déjà préparé, ce que Dieu s'attend pour les chrétiens. Puis je sais que la prière, ça fait partie de ça, la louange, la lecture de la parole, qu'on se nourrisse de communion fraternelle, puis qu'on évangélise. Ça, c'est les points principaux pour maintenir ta communion avec Dieu, puis de vivre dans la sainteté aussi, ça fait partie des points principaux. Ça fait partie de ce qui devra être dans la vie d'un chrétien. Ne nous laissons pas séduire par l'attrait d'imiter les actions des gens qui marchent tout croche. Parce que des fois, c'est tentant. Tu vois, comme il dit dans Job 21:7, ça dit, « Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? » Puis là, tu lis les autres versets, il dit, « Ils deviennent prospères, ça a de l'air d'aller bien, c'est des méchants, mais ils ont de l'air d'aller bien, tout va bien, ils grandissent en bien puis en argent. » Là, on regarde ça, puis on est comme tenté de par leur état, qui aura plus de profit, dans un sens, d'avoir une vie croche. Comme on le sait aujourd'hui, que c'est plus facile pour une compagnie de faire de l'argent avec du tour de la table que marcher honnête. Quand tu marches honnête, une compagnie, puis ils payent leurs taxes, leurs impôts, il n'en reste pas gros de profit. Mais s'ils marchent tout croche, là, ils font de l'argent en dessous de la table, puis ils font de l'argent noir, puis là, il y a des enveloppes brunes ici et là, puis là, il y a l'argent coule avec des choses croches. Oui, ça a de l'air tentant, tout cela, mais il faut considérer, comme Salomon a dit, de crains Dieu, observe ses commandements, c'est là ce que doit tout homme, car Dieu va emmener en jugement tout ce qui est caché, soit bien, soit mal, tout va être jugé par Dieu. On n'a aucun avantage de travailler au noir, travailler en dessous de la table, travailler avec des choses de frauduleuses, puis être tout croche, d'imiter les croches. Dans Job, le verset chapitre 21, mais le verset 13, qui est juste quelques versets plus bas, il dit, « Ils passent le jour dans le bonheur. » Les riches, les mauvais, pas les riches, les mauvais passent le jour. Les méchants, ils vivent dans l'abondance, puis ils passent le jour dans le bonheur. Et, c'est là qu'est la conclusion, ils descendent en un instant au séjour des morts. Paf! Ils ne rentrent pas dans la présence de Dieu. Ils s'en vont dans le séjour des morts. Fini. La vie, ils ont profité que dans leur vie temporaire, éphémère. Ils ont profité, ils en vivent tout croche. Oui, une abondance incroyable, mais tu regardes en arrière, la vie est finie. Ils partent parce qu'ils meurent, mais ils s'en vont dans le séjour des morts. C'est fini pour eux. Tout ce que nous voyons va disparaître. Il n'y a rien dans ce monde qui ne disparaîtra. Jésus l'a dit, le ciel et la terre disparaîtront. Il y a un moment fixé par Dieu, ce que tout va disparaître. Mais si nous vivons en fonction de la parole de Dieu, nous vivrons éternellement. Dans 1 Jean 2:17, le monde passe, puis ça convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. On a tout à gagner de marcher avec le Seigneur. Jésus nous invite à aller à lui. Il nous dit dans Jean 5:40, « Et vous voulez pas venir à moi pour avoir la vie? » Il dit, « Oui, faut que tu sois prêt à perdre ta vie. » Mais tu ne veux pas venir à moi pour avoir la vie. Dieu veut te donner la vie. Il l'a fait, l'appel, il appelle tous les hommes à lui. On ne voudra pas aller à Jésus pour avoir la vie. Oui, on veut aller à Jésus pour avoir la vie. Oui, Seigneur, je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour tout ce qui est écrit là pour nous inspirer, nous instruire, pour nous donner la voie à suivre. Merci, Seigneur, de te révéler pour qu'on puisse considérer le temps qu'on vit, puis de vivre de façon qui te glorifie. On veut vivre ces moments-là qui nous restent, Seigneur, en communion avec toi. vivre de tes bontés, vivre de ta joie et de ta paix, la communion de ton esprit. Seigneur, on veut perdre notre vie. On veut abandonner sous tout ce qui est péché dans notre vie. Et donne-nous de rester dans cette voie droite jusqu'à la fin. Amen.